tel qu'annoncé, avec nous aujourd'hui le professeur agrégé à l'Université Concordia et membre du groupe anticarcéral, M. Ted Rodlin, qui a causé tout un émoi au niveau de la police la semaine dernière avec son étude. Alors, M. Rodlin, bonjour.
Bonjour à vous.
Comment allez-vous?
Assez bien, vous?
Ah, ça va, parce qu'on sent que pour la prochaine demi-heure, ça va probablement chauffer, parce que vous avez créé un émoi qui était assez fort, qui a fait réagir certains policiers, mais avant, parlez-nous de cette étude que vous avez réalisée.
Bon, j'ai regardé l'escouade qui étude, qui est un escouade de retirer des armes à feu de nos rues à Montréal. Mm-hmm. C'est un escouade de 20 policiers qui était créé en novembre. Et j'ai regardé qui a été arrêté et accusé par l'escouade, quelles ont été les accusations et quels étaient le groupe ethnique des gens accusés. Et ce que j'ai trouvé, c'est que 75% des gens accusés par l'escouade étaient des personnes noires, mm-hmm. 19% étaient des personnes blanches et 6% étaient des personnes racisées, mais pas noires. Et quand on prend en compte que les personnes noires représentent 7% de la population montréalaise, ça veut dire qu'une personne noire a 42% plus de chances d'être arrêtée et accusée par l'escouade anti-armes à feu qu'une personne blanche, ce qui est extrêmement disproportionné, même pour l'SPVM, que nous savons a une longue histoire de problèmes avec le racisme et le profilage racial. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que pas beaucoup des accusations avaient un lien avec des armes à feu. Juste 30% des accusations avaient un lien avec un arme à feu. La grande majorité étaient des accusations pour des affaires de drogue. Et si on regarde les cas des personnes blanches et noires, on trouve que beaucoup plus de personnes blanches étaient arrêtées pour des affaires d'armes à feu que les personnes noires arrêtées par l'escouade. Alors, j'ai dit, c'est pas vraiment un escouade d'armes à feu, c'est un escouade anti-noir. Et évidemment, ça a fait certaines personnes réagir.
Ok. Mais est-ce que au départ, vous ne vous attendiez pas un peu à cette réaction en disant que c'est une escouade anti-noir?
Je ne sais pas. Je veux dire, c'est difficile de l'appeler autrement. Mm-hmm. Si c'est une escouade anti-armes à feu, on trouverait qu'il y avait beaucoup d'accusations pour des armes à feu et pas beaucoup de distinctions en termes de l'ethnicité des personnes accusées. Mais si on a une escouade qui se dit une escouade anti-armes à feu où une minorité des accusations ont un lien avec des armes à feu et une énorme majorité des personnes sont des personnes noires. Alors, je ne veux pas dire que c'est nécessairement l'intention, mais c'est certainement le résultat.
Vous avez également dit qu'il a été premièrement difficile. Vous avez dû passer par la loi sur l'accès à l'information pour pouvoir obtenir les données. Pourquoi c'était si difficile de les obtenir de la part de la SPVM?
Nous savons que l'SPVM n'est pas une institution très transparente. Mm-hmm. Y a plein de monde, moi inclus, qui ont fait plein de demandes d'accès à l'information à travers les années. Et c'est très rare de recevoir les infos qu'on demande. Je sais, par exemple, que des bilans sont souvent écrits pour mm-hmm. des escouades comme l'escouade anti-armes à feu. Mais c'est pas le sorte de choses qu'ils vont donner, même si on le demande. Mm-hmm. Ils vont dire comme excuse que partager un bilan comme ça, ça va nuire à des opérations courantes. Mm-hmm. Ce qui est peut-être vrai, peut-être faux, je ne sais pas. Mais c'est clair que quand on parle d'un document qui a été créé depuis 10 ans, Ils vont toujours dire qu'on ne peut pas vous donner ça parce que ça peut nuire à les opérations. Et après 10 ans, ils les détruisent au lieu de les envoyer dans les archives. Alors, même moi, je travaille beaucoup dans les archives et les archives pour l'SVM, c'est très minime. En général, c'est que des rapports annuels qui sont très disponibles à la grande bibliothèque ou sur le site web. Mm-hmm. Pendant que même à Chicago, Los Angeles, à New York, où j'ai des collègues qui font des recherches sur la police, il y a des énormes archives sur la police. Alors, nous sommes dans une situation où l'institution veut garder le plus d'informations possible du public.
Okay. Est-ce que en voulant conserver l'information à l'interne, est-ce que c'est pas un peu ça qui a motivé votre curiosité d'aller un peu plus loin, de fouiller et d'essayer de savoir ce qui se passe?
Absolument. Et aussi, ce que j'ai dit dans mon rapport, c'est que quand on étudie l'histoire de l'SPVM, on trouve que chaque fois que la police est fortement critiquée pour son racisme, pour sa violence, mm-hmm. la police a la tendance de lancer de nouvelles opérations ou de nouvelles escouades qui ciblent une forme de crime qui est facilement associée à des personnes racisées. Alors, l'escouade anti-gang de rue était formée en 1989 dans un moment où on avait des vifs critique contre l'SPVM pour son racisme. On avait des manifestations dans la rue. On avait des conseillers municipaux qui voulaient changer les pratiques policières. On a eu un été où on avait la commission Bellemare qui examinait le racisme de l'SPVM. Et une année plus tard, on forme une escouade anti-gang de rue qui, pour une année, ciblait que des jeunes haïtiens. Mm-hmm. Et l'année prochaine, ils ont élargi l'opération pour cibler aussi des personnes noires anglophones. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ciblaient des personnes innocentes de tout crime, mais c'est une question de où est-ce qu'on dépense nos ressources, mm-hmm. où est-ce qu'on regarde pour des crimes. Qui est-ce qu'on a tendance à voir comme potentiellement innocent ou potentiellement criminel? Alors, si, par exemple, l'SPVM montait toute une escouade pour arrêter des gens qui avaient des drogues chez eux, sur le plateau ou dans Rosemont ou dans Pierrefonds, on trouverait certainement plein de gens qui ont des drogues chez eux. C'est normal. L'utilisation, la consommation de drogues, c'est assez commun dans notre société. Mm-hmm. Alors, c'est pas que les gens qui seraient arrêtés sont des gens innocents. C'est juste que, est-ce qu'on veut vraiment envoyer tous nos argents pour cibler cette forme de crime? Et si oui, pourquoi? Alors, les gens qui ont été accusés par l'escouade anti-armes à feu, j'imagine que la plupart n'étaient pas innocents des crimes dont ils ont été accusés. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment envoyer 20 policiers dans Montréal-Nord, dans RDP, pour trouver le plus de personnes possibles qui ont une certaine quantité de drogue chez eux? Je pense que c'est une question qu'on devrait se poser. Et on pourrait avoir un débat de société autour de ça.
Mmh. Mais c'est quand même très inquiétant ce que vous dites, parce que c'est comme si la SPVM, quand elle doit se justifier, va se créer ce qu'on pourrait appeler un cas pour pouvoir justement dire « ben nous vous l'avons dit, c'est dangereux même ».
Oui, absolument, absolument. C'est comme, il crée des prétextes pour pouvoir continuer la même chose pour laquelle ils sont critiqués. Alors, si ils peuvent nous dire que, il y a des jeunes hommes noirs à Montréal qui ont des armes à feu, ils sont très dangereux, maintenant le public va sentir comme, OK, c'est bon que le police cible des personnes noires parce qu'ils sont dangereux. Mm-hmm. Et ce qu'on voit avec l'escouade anti-armes à feu, c'est que Plusieurs fois, quand ils ont fait une arrestation, ils ont lancé un communiqué de presse. Mm-hmm. Et si c'était des personnes noires qui ont été arrêtées, ils ont publié les photos. Les photos étaient reprises dans tous les médias. Alors, ça aide à créer l'image que les personnes noires sont dangereuses. Il faut un service de police qui cible ces personnes-là parce qu'ils nous mettent tous en danger. Mais quand ils ont arrêté des personnes blanches pour des armes à feu, ils n'ont pas circulé les photos.
Écoutez, ça me dépasse, ça. Parce que on s'attend à un peu plus de réserve de la part de la police.
On espérait. Mais c'est une longue histoire. C'est pas une institution qui aime se réformer. C'est pas une institution qui reçoive des critiques de façon très humble ou de façon réceptive. Nous savons que c'est très difficile, en fait, de demander le chef de police de même avouer qu'il y a du profilage racial au sein de l'SPVM, pendant que c'est extrêmement évident. Le chef Sylvain Caron, dans une consultation publique il y a un an, a dit qu'il n'y a pas de profilage racial chez l'SPVM. Il y a des actes qui peuvent être perçus comme le profilage racial. Mais on sait que c'est très, très difficile de démontrer. Une personne racisée qui est ciblée par la police va savoir que si lui, il est arrêté par la police parce qu'il a tourné de mauvaise façon sur un feu rouge ou quelque part, que c'est probable qu'ils ont été arrêtés à cause du racisme. Mais c'est très difficile de le démontrer. Alors, pour l'SPVM, il n'y a pas du profilage racial parce que c'est très difficile de démontrer. Mais clairement, ça existe. On a les données. Il y a des gens qui se plaignent de ça depuis les années 70. C'est très courant. Mm-hmm. Et c'est tout à fait comme normal pour un service de police. C'est pas juste le service de police de Montréal. C'est partout aux Amériques du Nord. C'est au courant en Europe, un peu partout. C'est comme... C'est pas quelque chose qu'on devrait c'est pas nécessaire quelque chose où c'est nécessaire de le démontrer. En fait, c'est tout à fait normal que la police soit raciste. Comme on doit soupçonner que la police est raciste et on doit lutter pour transformer ça, ce qui n'est pas facile.
S'ils ne sont pas réceptifs à premièrement reconnaître qu'il y a un problème, et ensuite s'ils préfèrent essayer de démontrer par A plus B, comme l'étude a démontré, qu'ils ont toujours raison lorsqu'ils affirment quelque chose, ou qu'ils essaient par des moyens détournés pour pouvoir dire qu'on fait des efforts, et puis mais voilà la preuve, pour une société qui se prétend différente des autres, comment on fait pour s'en sortir, alors?
Ben, c'est compliqué. C'est compliqué en plus parce que la police a une opération de relations publiques qui sort des messages tout le temps, qui ont des relations avec des journalistes, etc. Alors, c'est très facile pour eux de passer leur message. En plus, je dirais, comme les pages des journaux qui concentrent sur le crime, c'est un peu les relations publiques pour la police en même temps. C'est pas l'intention, mais on est entouré par des images de criminalité qui sont souvent influencées par le racisme. On écoute des émissions, des séries de télévision, des films, etc., où les policiers sont des héros et qui nous protègent des gens violents, etc. Alors, nous sommes entourés par des messages qui nous disent que la police, c'est correct, ils font quelque chose de vraiment important pour nous. On ne peut pas demander que ça change beaucoup. Pendant que certaines communautés sont fortement affectées par ça, et pas juste être interpellé dans la rue, ce qui est aussi quelque chose assez grave. Mais une interpellation, après une interpellation, on peut avoir une arrestation, on peut avoir un acte de brutalité. On a des gens racisés ou pauvres qui sont plus susceptibles d'être envoyés en prison pour des crimes qui sont très communs dans notre société. Alors, ils vont être séparés de leur famille, ils vont perdre leur emploi, ils vont perdre leur appartement, et après 2 ans, après 5 ans, ils vont sortir, ils vont être autant plus désavantagés qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dirais que nous pouvons voir une sorte de changement dans l'esprit public à Montréal et dans le monde, où on commence à questionner pourquoi est-ce qu'on a si investi dans la police? Pourquoi est-ce qu'on a si peu investi dans plein d'autres formes d'intervention ou de programmes qui peuvent vraiment soutenir les gens dans leur vie, qui peuvent mieux nous rendre sécures, qui peuvent intervenir dans des conflits avant que les conflits deviennent violents, avant que quelqu'un doit essayer de procurer une arme. Ça s'appelle le mouvement pour le définancement de la police, qui est aussi un mouvement pour réinvestir dans nos communautés. Et là, je trouve que c'est intéressant. La police a réagi à mon rapport. Ils ont dit plein de choses que j'ai trouvées très intéressantes. Et ils ont essayé de déconstruire mes arguments, mais en fait, je trouve qu'ils affirment mes arguments. Et une des arguments, c'est que on essaie de sortir des armes à feu de les rues. Malheureusement, il y a plus d'armes à feu dans des quartiers pauvres et immigrants. Mais ça veut dire, ça c'est intéressant. Je pense pas que c'est vrai en fait, mais même là, ça veut dire que on va cibler avec une force de punition et de violence des gens qui ont procuré des armes parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont marginalisés. Alors, est-ce qu'une autre solution ne serait pas d'investir dans ces communautés-là pour lutter contre la pauvreté, pour donner les gens des autres opportunités dans la vie? Est-ce que c'est pas absurde et violent que notre approche présentement, c'est de plus investir dans la police et le système carcéral que dans des programmes communautaires ou sociaux qui pourraient vraiment soutenir des gens à bien vivre? Je trouve que c'est horrible de deux façons. C'est le manque d'investissement dans des programmes sociaux et le surplus d'investissement dans un programme de répression et de punition.
À cet effet, vous nous donnez un exemple. Vous parlez d'une personne de Montréal-Nord et qui rapporte que la police l'a arrêté dans sa voiture, l'a bombardé de questions sur le trafic de drogue et les armes, puis s'est présenté à son domicile, a fouillé les lieux et l'a arrêté pour possession de drogue. Est-ce que toutes les étapes judiciaires requises dans un tel cas ont été respectées?
Moi, je ne sais pas. Je dirais que c'est impossible pour moi de savoir. Je vais regarder ces cas avec un peu plus de profondeur, avec des collègues qui sont des avocats pour mieux saisir la question. Mais ce que je dirais, c'est que même si toutes les règles ont été suivies, c'est un surinvestissement dans la surveillance des personnes noires. C'est-à-dire, si dans mon quartier, moi j'habite sur le plateau, si on envoyait 20 policiers dans le quartier et on arrêtait les gens partout et on demandait des mandats de perquisition, on trouverait plein de personnes qui ont des drogues chez eux. Et pour moi, c'est pas grave. Comme, on peut avoir des opinions sur les drogues, mais c'est assez commun dans notre société. Alors, est-ce qu'on veut investir dans un programme de surveillance et d'arrestation des personnes pour la possession de drogue dans des quartiers favorisés, dans des quartiers blancs? Et on ne le fait pas. Alors, même si toutes les règles ont été suivies, le problème pour moi, c'est que on a ciblé cette personne. On a ciblé ce quartier. On a ciblé ce groupe ethnique. Et si on cible une population, on va trouver qu'il y a des gens qui ont commis des crimes. C'est normal. Mais moi, j'aimerais au moins que notre système soit plus égalitaire, que s'il y a une population qui est surveillée, les autres populations sont surveillées aussi.
Et vous dites également que la création de l'escouade quiétude n'est pas une vraie réponse à de vrais problèmes qui existent bel et bien. Et il faut sortir du paradigme qui veut que la police et la prison soient la solution à ce type de problème. Et vous ajoutez, la vraie solution, c'est de s'attaquer au problème de marginalisation et d'embaucher des travailleurs de rue pour faire de la prévention et de la médiation. Comment vous voyez ça de façon précise?
Ouais, alors je dépends beaucoup là sur les perspectives et les revendications des groupes comme Hoodstock, comme Montréal Nord. Mm-hmm. C'est des gens que je connais bien et avec lesquels j'ai beaucoup parlé de mon étude. En fait, c'est à travers des choses que j'ai appris de Woodstock et avant ça, Montréal Nord République, qui ont vraiment m'aidé à concevoir mes projets de recherche en général. Mais eux, ils revendiquent l'embauche de au moins 10 ou 12 travailleurs de rue qui pourraient bâtir des liens avec les jeunes qu'on marginalise pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Comment est-ce qu'on peut les soutenir pour finir l'école, pour trouver un bon emploi, pour régler les conflits qu'ils ont avant que ça devienne violent, mm-hmm. avant que c'est nécessaire de procurer une arme. Toutes ces choses qui sont... C'est pas difficile à comprendre que ça peut marcher. Et que plein de problèmes peuvent être évités si on investisse dans les vies des gens. Aussi, c'est nécessaire comme plein de quartiers dans Montréal, on a très peu d'activités pour les jeunes. On a très peu de programmes sociaux. On a des problèmes de logement. On a des problèmes de chômage. Je ne veux pas dire que tout ça, ça augmente la criminalité, parce que je pense que c'est pas du tout clair le lien entre la pauvreté et la criminalité. Mais c'est clair que en investissant de cette façon, on peut absolument prévenir la violence. On peut absolument prévenir certaines formes de criminalité. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a plus de criminalité dans les quartiers pauvres, mais certainement, si on investissait, on pourrait le diminuer massivement. Mm-hmm. Et dans une façon que je crois est basée sur le respect de l'autre, le respect de tout le monde dans la ville, dans une façon qui traite tous les résidents de la ville comme des vrais citoyens, avec des droits, avec la possibilité d'un bon futur.
Vous dites aussi, par rapport aux réactions des policiers, que ça, leurs réactions vous permettent d'affirmer au fait ce que vous avancez. Et est-ce qu'il y a un exemple au niveau de leurs réactions?
Bah, l'SPVM, dans un communiqué de presse jeudi, mm-hmm. quelques heures après que les nouvelles sur mon rapport ont commencé à publier, ils ont dit... Par exemple, que l'escouade quiétude, il travaille dans tout le respect des règles, des protocoles. Il commence des enquêtes sur un individu que après qu'ils ont reçu des infos du public ou d'un informateur. Ils sont toujours basés sur des faits observables. Alors tout ça, je dirais que je ne pense pas que c'est tout à fait vrai. Mm-hmm. Pas 100% vrai, mais si on assume que c'est 90% vrai, là, ça montre en fait le problème. C'est que même quand les policiers suivent les règles, le résultat, c'est un effet raciste. C'est pas, pour moi, le racisme policier, c'est pas que l'effet de certains individus qui sont fortement racistes. Il y a des policiers comme ça. Mais je pense que le problème, c'est plus large. C'est que quand un individu juste normal travaille pour la police, son pratique, mm-hmm. Parce que c'est structuré par une institution, va avoir un effet raciste. Alors là, comme j'ai dit, je ne soupçonne pas que les personnes accusées par l'escouade anti-armes à feu sont totalement innocentes de tout crime. Mais le fait qu'ils ont décidé d'investir tant de ressources à cibler un certain quartier et un certain groupe ethnique, ça, c'est le problème. Mm-hmm. Mais on peut décider qu'on veut cibler un certain quartier, une certaine population, et suivre toutes les règles. Mais le résultat, c'est opprimant. Parce qu'on ne ferait pas ça dans un autre quartier ou contre une autre population. Aussi, je trouve que c'est intéressant qu'ils ont dit que les enquêtes ont été menées après avoir vu des faits observables. Non. Il y a quelques mois, la police a sorti une politique sur les incorporations. C'était une réponse au rapport d'octobre 2019 qui montrait mm-hmm. qu'il y avait des vrais problèmes de profilage racial dans les interpellations de l'SPVM. Et dans la politique, ce qu'ils ont dit, c'est effectivement que toutes les interpellations doivent être faites sur la base des faits, de certains faits observables. Alors, il doit avoir raison pour arrêter quelqu'un, de soupçonner que cette personne a fait quelque chose de criminel. Et j'ai dit à l'époque que ça va changer absolument rien, parce qu'il y a toujours un possible prétexte. Et j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les policiers pour mon recherche. Mm-hmm. Et ils me disent ça en pleine face. S'il veut arrêter quelqu'un, il peut toujours trouver un prétexte. Lui, il a marché trop vite. Il a marché trop lentement. Il a regardé dans une voiture en pensant. Il a l'air de quelqu'un qu'on voit dans les rapports a commis un crime. Il fit the description. Okay. Tout ça.
D'accord.
Alors, ça veut dire que...
Et pour conclure...
Allez-y.
Non, ce que j'allais dire, c'est que vous venez de donner, peut-être sans savoir ou pertinemment, la définition du racisme systémique.
Ah ouais.
Oui, et comme le temps file, nous reprendrons cette conversation à un moment donné parce que nous allons suivre tout ça de près. Et je vous dis un grand merci et probablement à bientôt.
Mais c'était un grand plaisir. J'aime beaucoup votre programme et bon après-midi.
Merci.